Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comics Peak, l'émission de choix qui sélectionne pour vous un excellent comics. Aujourd'hui, on va en parler tout de suite avec l'ami Balmung. Salut Balmung.
Salut Baptiste, salut Nightwing et bonne semaine à tout le monde.
Ah ouais, carrément, bonne semaine.
Ouais, d'avance.
Le mec prend de l'avance. Et salut Nightwing.
Salut Baptiste, salut Balmung et bonne semaine à tous sauf deux. Je vous laisse choisir lesquels.
On a tous des ennemis à qui on souhaite pas la bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un comics que j'ai longtemps voulu lire et c'est encore une fois un truc où j'avais pas l'occasion et c'est un truc vraiment mais tellement incroyable et on me l'avait dit depuis des années. Howard the Duck de Steve Gerber et notamment Ginkolan, mais également Frank Brunner, et c'est vraiment une merveille. Je m'attendais. Enfin, on avait beau m'en parler, m'avertir, je m'attendais vraiment pas à ça. Et pourtant, avant d'avoir lu Howard the Duck, je m'étais intéressé à l'histoire de Steve Gerber. Et l'histoire de Steve Gerber, c'est l'anecdote de chez Marvel qui m'a le plus marqué. Et histoire de vous faire un peu toute l'histoire, c'est que un moment, quand j'étais chez DC Planet, j'ai bossé de moi-même, parce que j'avais une idée de taré, c'était de refaire l'histoire de Roy Thomas, le bras droit de Stan Lee, puis son bras droit à lui, Gary Conway. Et en fait, ces histoires sont vraiment entremêlées, puisque c'est la période des années 70, et il y a une histoire éditoriale à connaître concernant Steve Gerber à travers Howard the Duck, parce que Gerber, c'est un mec qui est en roue libre constante, et qui va connaître à la fois les meilleures et les pires années de Marvel Comics, et il va en faire les frais. Donc Steve Gerber, c'est un artiste qui travaillait, j'ai déjà un doute, mais il travaillait dans un domaine, il était copywriter, travaillait sur un fanzine avec Roy Thomas, donc ils se sont connus sur un fanzine, mais vraiment le fanzine de papier mâché, n'importe quoi, mais d'impression locale et artisanale. Et en fait, dans cette initiative-là de passionnés, ils se sont rencontrés dans les années 60, avant que Roy Thomas ne devienne le bras droit officiel de Stan Lee, qui prenne sa suite. Arrivent les années 70 où Stan Lee va être promu directeur de Marvel, etc., et va vraiment lâcher tout ce qui est écriture et gestion des projets. Donc il va laisser ça à son bras droit, Roy Thomas, qui va faire rentrer, après quelques tests, Steve Gerber. Et donc Steve Gerber, c'est un gars qui va travailler sur plusieurs choses de chez Marvel, beaucoup de récits horrifiques au départ, et ça va être assez important en fait, ça m'a permis de comprendre le pourquoi du comment de certaines choses. Il va bosser sur du Dracula, sur des comics La Momie, il va bosser sur Dracula, j'ai déjà dit, mais bref, plusieurs récits horrifiques vraiment assez spéciaux pour certains, et il va tomber comme ça sur du Man-Thing. Donc Man-Thing, si vous connaissez pas, c'est un peu le Swamp Thing de chez Marvel, mais en beaucoup plus bizarre. Parce que là, pour le coup, Man-Thing, c'est ultra psychédélique. Swamp Thing, ça a quand même une forme littéraire qui va essayer d'exploiter certaines thématiques. Là, Man-Thing, c'est vraiment que du psyché pur et dur, avec une créature qui n'agit que par instinct et n'a aucune réflexion. Donc c'est assez spécial. Et c'est Steve Gerber qui va marquer principalement l'histoire du personnage de Man-Thing, qui est le run le plus célèbre de Man-Thing. D'ailleurs, un des premiers omnibus que Panini a ressorti là avec sa nouvelle politique éditoriale des omnibus.
Mais il n'y a pas d'omnibus Howard the Duck, on remarquera, hein.
Ouais, alors qu'en VO, il y en a. Et honnêtement, l'omnibus VO est très 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 cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc après Man-Thing, et dans Man-Thing, il va introduire son premier personnage, Howard the Duck. Faut savoir qu'à ce moment-là, Roy Thomas n'est plus vraiment éditeur en chef. Mais il n'est plus Roy Thomas. Il n'est plus éditeur en chef. En fait, là, on va arriver à une période où chez Marvel, ça va être le chaos absolu. Les éditeurs en chef se changent de nom quasiment tous les mois. C'est vraiment un enfer. Et il va y avoir Roy Thomas qui va lâcher l'affaire parce qu'il n'arrive plus à gérer les équipes. Arrive Gary Conway qui se dit qu'au bout d'un moment il peut tenter de le faire. Il va rester quelques mois, mais durant ces quelques mois il va tenter de rétablir l'ordre et il va pas se faire très apprécier chez Marvel à ce moment-là. Par la suite, je ne sais plus qui prend la tête de
Archie
de Marvel,
Godwin,
mais ça,
hein, je crois.
Peut-être, mais en tout cas, je sais que rapidement, on a des personnes qui vont arriver, repartir, ce qui fait que on va arriver sur une politique qui va être que les artistes qui sont sur les séries sont également les éditeurs, pour simplifier les choses et pour que les artistes aient moins de contraintes et puissent travailler plus rapidement. Et ça va être une quête de production qui va faire que les artistes vont essayer de faire au mieux. Enfin, au mieux, vont être plus libres. Et ça, Gerber va adorer. Parce qu'au départ, il bosse, tu vois, sur du Daredevil, etc. Il est dans la continuité de ce qui est déjà fait. Il respecte l'histoire de l'univers. Donc, ce qui va être un petit peu novateur chez Gerber et qu'on va déceler tout de suite chez lui sur son Daredevil, c'est que il va mettre Daredevil en duo avec Black Widow. Et il va faire de Black Widow un personnage féminin l'égal du héros principal de la série. Et ça, ça va être assez novateur et assez 70. Et donc Gerber va être dans cette idée-là de développer de nouvelles idées un peu surprenantes. Et plus ça va aller, plus ça va être spécial, on va dire. Quand on va vous parler de Howard the Duck, vous allez voir à quel point c'est spécial. Sur Howard the Duck, sur Mansing, il va introduire Howard the Duck. Il va créer un truc, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un truc le néant, où se croisent les univers. Donc c'est une sorte d'endroit où tu peux passer d'un univers à l'autre, comme tu le souhaites, comme un pont. Et en fait, dans ce néant, Mansing va se retrouver là et assister à des militaires avec des chars de la Seconde Guerre mondiale qui se battent contre des Vikings pour avoir le contrôle de cet univers-là. Au milieu de ça, il y a des princesses avec des pouvoirs magiques. C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu un délire à la Warlord de chez DC.
Non, Werborn, tu connais pas chez Marvel.
Ah oui, pardon, j'avais compris Warlord. Ça ressemble un petit peu à ça. Dans ce truc-là, va naître Howard, qui apparemment est juste un canard parlant, qui fait partie de ce croisement d'univers. Et donc, Mansing va créer son équipe avec Howard, puis d'autres personnages. Sauf que, à ce moment-là, on va avoir des éditeurs qui vont reprendre leur rôle et qui vont observer un petit peu ce qui se passe sur certaines séries. Et Gerber, qui n'avait plus vraiment l'habitude que quelqu'un regarde ce qu'il fasse, va avoir la présence de quelqu'un qui va lui dire mais. Et alors d'après mes souvenirs, mais là par contre c'est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai pas revérifié ça. C'était Jim Shooter qui était éditeur et voit un peu ce que fait Gerber et lui dit mais c'est quoi cette merde, tu me tues ce canard au prochain.
Ah mais Jim Shooter, au prochain c'est numéro. Il est connu pour être un véritable connard. Chez Marvel, hein, donc bon.
Alors, connu pour être un véritable connard, oui, mais ça se discute en fait. Et là-dessus, il a une politique très machiavélique, mais il a quand même réussi à faire certains choix pour redresser Marvel. Faut lui jeter des pierres parce que les méthodes étaient pas humaines, mais il y a quand même un bienfait dans ce qu'il a fait et qu'on peut pas forcément.
Alors moi je dirais juste hein, parce que du coup ça reste dans la thématique, c'est que c'est de mémoire, c'est à cause de lui et aussi à cause d'un certain petit bonhomme qui est arrivé par la suite que tout le monde adore. Pour moi c'est la seule merde que je jetterai un jour au visage, Jed Byrne. C'est les deux mecs qui ont amené vers la sortie de Jen Colan, notamment parce qu'ils n'aimaient pas sa manière de travailler. Parce que Jen Colan, alors du titre, on le verra un peu. C'est moins prononçable, moins visible, on va dire, sur Howard the Duck, parce que je pense qu'ils se faisaient plus plaisir et à mon avis, ils se mettaient tous ils se mettaient d'accord avec les scénaristes. Et Jen Colan, c'est quelqu'un qui adore présenter l'action. Et le problème, c'est que quand on lui file un paquet de pages où on lui dit voilà ce que tu dois mettre dans un numéro, lui dit ouais mais attends mais ça ce truc là, ce petit passage où je sais pas la Daredevil, parce qu'il est surtout connu par le Daredevil, il va se balader dans les rues et ben je vais le découper en plein de petites cases et il va faire vraiment une course poursuite à travers la ville pour chercher cette voiture là. Et en fait il était connu alors il était connu pour étaler l'action, mais il était aussi connu pour sortir des pavés à la fin des numéros, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à mettre tout le scénar, ce qui fait que ces dernières pages sont connues pour être blindées de textes, et de petits textes, et voire même de petites cases quand il n'y arrivait vraiment pas, ce qui fait que il s'est foutu à dos des scénaristes, mais il avait un style de fou, et de toute façon, t'auras le temps d'en parler, Baptiste.
Ouais. Et Ginkolan, justement, j'aime beaucoup. D'après mes souvenirs, Jim Shooter passe la tête sur l'épaule, au-dessus de l'épaule de Garber, lui dit de tuer le canard au prochain numéro de Mansing. Ce qui fait que dans le dernier numéro où apparaît Howard the Duck, on voit que Howard va tomber dans un gouffre de l'infini, et en fait, pour lui, c'était sa manière de tuer Howard the Duck. De là, va arriver 2 mois plus tard un colis venu du Canada chez Marvel avec une carcasse de canard avec un mot dedans qui va dire « Vous avez tué ce canard ». D'après mes souvenirs, c'est Garber qui va avoir ça et il va le caler sur le bureau de Jim Shooter, d'après mes souvenirs, mais c'était de l'éditeur en question, et d'après mes souvenirs c'était Shooter, et il va lui laisser ça, et ce qui fait que Howard va revenir dans sa série en solo qui s'appelle du coup Howard the Duck. Avant ça, va quand même y avoir une sorte de tentative de le faire vivre autrement avec des petites histoires, c'est pas tout à fait des backups, parce que c'est des numéros spéciaux de Mansing où t'avais plusieurs histoires de différents personnages de 10 pages chacune, et Howard avait une histoire de 10 pages. Parmi ces histoires, je vous raconterai tout à l'heure, mais c'est délirant. Ce qui fait que le début de Howard commence par Howard qui tombe sur la planète Terre, mais en fait, c'est parce qu'il venait de voyager de ce gouffre dans lequel il était tombé dans Mansing. Et du coup, avec Garber, il faut savoir ça, c'est que quasiment tous ces comics sont liés. Quand il bossait sur telle série, il allait injecter ces personnages-là dans une autre série sur laquelle il bossait aussi. Et là-dessus, Garber a bossé sur plus de 8 comics par mois pendant une période. Donc il écrivait totalement 8 comics par mois. C'est un rythme infernal qui s'était fixé, et ça également ce qui va causer sa perte, puisque Jim Shooter, cette fois-ci c'est certain, arrive en tant qu'éditeur en chef chez Marvel, et il a déjà dans l'idée de dégager Garber. En fait, Jim Shooter va être un petit peu l'anti-vague hippie de chez Marvel. Donc, vague hippie avec Garber, Starlin et d'autres qui étaient réputés pour fumer ensemble pendant très longtemps et rendre leur script vraiment le jour de la deadline. Donc c'était également ce qui causait un peu ce chaos chez Marvel, et Shooter n'appréciait absolument pas. Donc c'est également comme ça qu'il va rétablir cet ordre. Donc le problème, c'est que
juste pour dire, Steve Gerber du coup était dans le même était aussi prolifique, on va dire, qu'en Roy Thomas, parce que Roy Thomas, je te rappelle qu'on a fait les comptes, et Roy Thomas, pour qu'il arrive à avoir autant de comics à son nom, c'est qu'il devait être au moins sur 5 séries pendant tout le long de sa vie.
Oui, c'est certain. Ça, par contre, c'est certain, parce que il y a des moments où il bossait également au même moment chez Marvel, chez DC, où il gérait plusieurs titres. Donc Roy Thomas, c'est certain, lui, c'était un monstre de taf. Et Garber, il va avoir un petit peu ce même rythme, mais en fait, le truc, c'est que ce rythme-là, il va pas le tenir longtemps. Et le fait qu'il ne tienne plus ses deadlines par la suite, ça va être la raison pour laquelle Jim Shooter va virer Garber. Il va le virer comme ça, pour en soi une faute en lien avec son travail, et Garber va être coincé à cause de ça, et par la suite il va essayer de travailler un petit peu chez DC, mais en fait à ce moment-là Garber va passer sous les radars pendant plusieurs années, et donc pendant plusieurs années en fait il va avoir une lutte juridique pour essayer d'obtenir les droits de Howard the Duck, chose qu'il ne va pas pouvoir faire, et qui fait que on va retrouver Garber de temps à autre en indé sur par exemple Destroyer Duck, qui va être à chaque fois une sorte de pastiche de sa propre création pour pouvoir raconter la suite des aventures de Howard the Duck, selon lui.
Mais en plus, il y avait Walt Disney, non ?
Et oui, il y avait également avant ça, le problème avec Walt Disney. Alors, le problème avec Walt Disney, finalement, il n'est pas si compliqué que ça, parce qu'effectivement, Howard the Duck, c'est une parodie très satirique de Donald. Le truc, c'est que chez Disney, leur problème, c'était qu'il ressemblait beaucoup à Donald. Et ils reprochaient le design à Marvel. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont demandé aux artistes de modifier certains traits de caractère de Howard. Alors je sais plus si c'était agrandir ou rétrécir les yeux de Howard pour pas qu'il ressemble trop à Donald. Je crois que c'était les rétrécir. Et ils voulaient surtout qu'il porte un pantalon. Chose assez drôle, c'est que dans ce chaos où même les éditeurs n'avaient pas le temps de vérifier ce que faisaient les artistes et les scénaristes, les mecs qui s'occupaient de du fait que Marvel soit dans le cadre légal, ils avaient déjà beaucoup trop de problèmes derrière, parce qu'en fait les lois qui passaient envers les sociétés d'impression et d'édition, les mecs qui s'occupaient de ça chez Marvel avaient toujours de nombreux retards derrière eux. Et donc, de nombreux mois de retard derrière eux. Ce qui fait que bah, ces mecs qui devaient faire appliquer la loi chez Marvel, bah, ils n'avaient pas le temps non plus de s'occuper de savoir si Howard était bien dessiné selon les critères de chez Disney, d'autant plus que eux, Disney, ils en avaient un petit peu rien à foutre. Ce que va faire Gerber, par contre, c'est que dans un certain épisode qui n'est pas dans la première intégrale dont on va vous parler là, ils voient que, effectivement, sur les dessins, ils veulent qu'ils portent un pantalon. Donc il y a un épisode où il va parler de l'hypocrisie, de l'antipornographie, etc. Eh bien, en fait, Howard va devoir porter un pantalon pour la pudeur. Et à la fin de l'épisode, en fait, il n'en aura plus rien à foutre, il va le déchirer et se balader les plumes à l'air. Donc, c'était... je crois que c'est pas dans le premier, non. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout l'omnibus pour voir, parce que Gerber quitte le titre de Howard the Duck alors qu'il était encore en cours de publication. Donc il y a un moment donné où il y a des histoires de Howard the Duck qui ne sont pas écrites par Gerber, et je vous jure, on sent la différence. Par la suite, donc, il va faire des pastiches de Howard the Duck, etc. Il va bosser un peu chez DC, et il va bosser jusque chez Vertigo, à la fin des années 90, sur un comic qui s'appelle Nevada, où on va avoir une stripteaseuse qui se balade avec son pote l'autruche. Donc clairement, si vous voyez pas que c'est une sorte de Howard the Duck réinterprété par le créateur lui-même, je vois pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, Nevada, je l'ai lu, j'ai rien compris. Je suis désolé, j'ai juste rien compris de ce qui s'est passé là-dedans. L'autruche ne parle pas, c'est trop bizarre. C'est... Bref, il y a plein de trucs ultra bizarres dedans. Donc voilà, Steve Gerber, c'est tout le temps ultra psychédélique. Faut s'accrocher pour le comprendre. Autre création marquante de Gerber, c'est Omega The Unknown. Un comics qui a été arrêté très tôt, qui n'a pas eu le temps de développer les idées qu'avait Gerber vis-à-vis de ça. C'était une sorte de pastiche des comics de super-héros qui font beaucoup de bastons, pour au final commencer à créer un lien entre ce super-héros ultra-violent qui ne parle pas et un jeune garçon dont au final on ne comprend pas forcément le lien. Pendant très longtemps, ce comics va être une sorte de mythe parce qu'on n'aura pas eu la fin. Et ça reste parmi les idées farfelues de Gerber qui n'ont pas connu de finalité. Par contre, il y a eu un projet qui s'appelle... Omega The Unknown également, en mini-série dans les années 2000, qui a tenté d'apporter une nouvelle vision du personnage, et qui était plutôt très très cool d'ailleurs. Voilà, pour Steve Gerber et ses créations, on va dire, les plus cultes. Pour Gene Colan, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus. C'est un dessinateur qui est excellent, qui est très connu, comme tu l'avais dit, pour son Daredevil, mais qui a également dessiné beaucoup d'autres choses.
Mais surtout Dracula
Et Dracula, qui Tomb of Dracula, qui a été réédité il y a pas très longtemps non plus en omnibus chez Panini.
C'est
considéré comme son chef-d'œuvre, mais de mon côté, je préfère beaucoup plus son Daredevil, même s'il y a effectivement, comme tu disais, des gros problèmes sur les fins d'épisodes avec beaucoup de
textes. Ah, il y a pas que ça. Il y a aussi le problème qu'on lui ait foutu dans les bras des encreurs qui étaient véritablement catastrophiques par moment. Il y en avait un qui était connu pour être le. Alors j'ai plus son nom, mais ils en parlaient dans le tome de Jen Cullen qui était sorti chez... Bon, chez un petit éditeur, bref, on s'en fiche. Mais qui a pour particularité, en fait, il y a un éditeur qui est le fast-food de Marvel. Grosso modo, quand Marvel trouvait pas d'encreur pour tel ou tel titre...
Vince Coletta ?
Ouais, je sais plus. Et en fait, il...
Vince Coletta, c'est celui qui a l'encreur qui a la pire réputation.
Ouais, c'est ça.
Parce que
et en fait, il...
Il avait pourri un peu Kirby sur
ça. Il n'y a pas que lui, c'est que Jen Colan ne voulait plus travailler avec. Et en fait, on n'arrêtait pas de lui mettre sous les bras parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'encreur. Et en fait, ce gars-là a pour particularité d'être capable d'ancrer un comics entier en moins de 2 jours. Je vous laisse deviner du coup de la qualité qu'il y avait derrière, mais il n'y avait rien du tout. Et il était connu du coup pour défoncer tous les traits, tout. C'est d'ailleurs pour ça que...
Alors, si c'est Vince Coletta, il y a de grandes... Il y a un vrai conflit d'intérêts là-dessus. Enfin, conflit d'intérêts. Il y a vraiment deux visions qui s'opposent, avec des retours d'artistes qui tentent de défendre sa mémoire vis-à-vis de ça, et ses descendants qui continuent de lutter pour faire reconnaître un petit peu la qualité du travail de Vince Coletta. Bref, c'est un truc. Alors c'est peut-être pas Vince Coletta du coup, hein, mais bref, moi de mon côté, Gene Colan, c'est un artiste que je trouve qui n'est pas assez apprécié parce que c'est quelqu'un qui a une vision très cinématographique de la chose. Comme tu disais, il découpe beaucoup plus les actions, mais surtout il prend des angles qui mettent souvent en avant des plongées et des contre-plongées, quitte à déformer légèrement, mais alors légèrement, la perception des acrobaties. Parce que là, j'ai surtout du Daredevil en tête, où on avait généralement le point de vue qui était à la cheville de Daredevil quand il prenait appui sur quelque chose. Et ça venait vraiment décupler les impulsions acrobatiques de Daredevil. Il y avait vraiment une sacrée technique et un sacré soin qui était apporté à toute la manière de raconter l'action et de la ressentir. Et pour moi, Gene Colan, pour ça, c'est quelqu'un qui est impressionnant. Et donc là, je l'ai découvert sur World of the Duck et c'était très spécial. Et
moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, il est pas... Parce que normalement, Gene Colan, il est connu pour avoir un encreur qui était véritablement génialissime avec lui. C'est... j'ai oublié, ben celui qui était sur Dracula, pardon, qui est d'ailleurs son meilleur ami, qui lui avait fait un hommage en le dessinant comme, comment s'appelle, le Black, le chevalier noir,
Black Knight.
J'ai un trou de mémoire, je crois que c'est, ça doit être marqué sur le... Tom Palmer, pardon. Je suis con.
Là, c'est un nom qui me
dit. Tom Palmer, voilà. C'était les deux plus grands potes, grosso modo. Alors, il est pas, du coup, sur le Howard the Duck, parce que je pense qu'il était déjà bien occupé sur Dracula, parce que Dracula, ça a commencé 4 ans avant la publication de Howard. Et quelque chose me dit qu'il devait continuer déjà à travailler sur Tomb of Dracula, parce que Tomb of Dracula, c'est quand même plus de 50 numéros de mémoire. On est sur du 3 omnibus. Parce que, bon, après le 3e omnibus, c'est aussi un mélange de plein de petites séries qui est revenu plusieurs fois sur Dracula. Et en fait, bon, même l'encreur là, est toujours très bon. Hein. Alors, j'avais regardé, j'ai plus son nom. Mais il est vraiment pas mal. Et en fait, on voit déjà qu'il a gardé quand même le style qu'il a ce Dracula, c'est-à-dire un style avec beaucoup d'ombrage. Vraiment un style qui date des années qui est vraiment marqué des années 70, c'est-à-dire un côté très horreur qui est particulier en fait sur ce titre-là du coup, parce que un truc avec des ombres comme ça, des dessins comme ça, c'est en fait sur certains numéros, mais bon, je vais peut-être laisser les présenter, mais il y a vraiment cette vague de l'horreur de toute façon avec pour le coup, ils étaient faits pour se rencontrer les deux, en fait. C'est sûr et certain, quoi. Je pense qu'à mon avis, en plus, ils avaient aujourd'hui déjà travaillé ensemble directement sur Daredevil. Hein.
Alors là, je saurais plus te sortir les crédits du Daredevil des années 70. Le gars, il y a un petit moment, donc difficile de me souvenir de tout ça.
Mais il a vraiment, quand il veut faire de l'horreur, il est très bon à ça, très bon. Et en fait, du coup, c'est pour ça que sur les premiers numéros, bon, il y a un numéro qui est très tiré de Conan et de foutage de gueule de Conan, mais on a aussi des numéros où on va présenter justement un monstre qui est fait de cookies, mais avec un côté un peu horrifique. Et ça va pas être qu'une seule fois, c'est même au niveau des ancrages, ça va revenir plusieurs fois, justement, cette espèce de design, qui fait très horrifique, qui est vraiment pour moi, la patte l'une des pattes de Gene Colan, parce que du coup, il n'a pas la même patte, pas le même dessin entre Daredevil et son Dracula, c'est pour ça que je préfère le Dracula. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de mettre la main sur des crayonnés de Gene Colan, de regarder à quoi ça ressemble, vous voyez à quel point ça doit être compliqué d'être son encreur. Mais bon, bref.
Donc. Ah, bah, parfait. Et donc, pour Howard the Duck, ici, pour vous présenter l'album en tant que tel, je peux déjà vous dire que ce début de série, c'est la meilleure partie. C'est la partie la plus drôle, la plus dynamique, la mieux rythmée que j'ai lu en fait sur l'ensemble de la série War the Duck. Donc ça va commencer de 73 à 77 avec un premier épisode où Howard débarque, et chaque épisode va permettre à Howard de critiquer des choses de la société telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, et critiquer des choses que nous avons acceptées inconsciemment, peut-être, et ou alors que nous pourrions finir par accepter inconsciemment. Donc il va venir relever des choses qui vont le choquer, lui, à ses yeux, se dire que c'est impossible de se disputer pour ça, de ne pas tomber d'accord sur des sujets qui sont pourtant assez évidents, et finalement, en fait, on se rend compte que parce qu'on vit dans cette société, on comprend que ce n'est pas si évident, mais en même temps, on se demande pourquoi est-ce que notre société a fait que ce sujet ne soit pas évident à aborder. Et Gerber va venir nous choquer vis-à-vis de tout ça, mais avec beaucoup d'humour, parce que Howard, finalement, c'est un personnage qui n'en a rien à foutre et qui n'a rien à faire là. En fait, il vient d'une autre dimension, clairement, et ça va être le regard de l'étranger qui observe un monde différent et qui le dégoûte, en fait. Il n'a absolument pas envie d'être là, et il va juste essayer de faire passer le temps pour, en espérant un jour, retrouver le chemin vers là où il est censé être, là où il est censé vivre. Donc il va passer d'abord de canard qui cherche à mourir à canard qui va vivre avec une princesse qui va tenter de se conformer à cette société. Et il ne va vivre que pour une seule chose, c'est récupérer quelques cigares à fumer pour passer le temps. C'est tout. Et en fait, à chaque fois, il va finir par vivre des aventures complètement folles. Et c'est vraiment génial, parce que c'est super drôle. Chaque histoire va être une thématique, du moins pour cette première intégrale, parce qu'on va avoir un épisode d'une vingtaine de pages, une thématique, une histoire complète. Par la suite, Gerber va parfois étendre ses histoires. Par exemple, ne serait-ce que l'histoire du monstre Cookie, ça va être une histoire en deux parties. Et par la suite, il va essayer de développer des antagonistes à Howard, qui vont essayer de développer des thèmes parfois plus longs. Et j'ai trouvé que là, ça perdait un petit peu en qualité, parce que le rythme effréné des premiers épisodes, c'est chaque page une surprise. Chaque page, un délire qui s'envole, mais dans des directions absolument folles. Et c'est là où tu te dis, peut-être qu'on ressent déjà la présence d'un éditeur derrière lui. Et là-dessus, autant je trouve qu'avoir un éditeur derrière soi, ça permet d'encadrer la chose, autant là, j'ai l'impression qu'effectivement, ça a un peu étouffé la folie de Gerber que tu voyais vraiment en roue libre au départ, avec par exemple, ne serait-ce que l'homme radis, qui a deux personnalités, le radis de l'espace et le personnage humain à qui il va donner son corps. Vraiment, c'est spécial, ça surprend, ça surprend. La vache vampire, ça surprend aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui
et
sont incroyables là-dedans.
C'est pas le castor, le beaver?
Ah oui, l'homme castor qui a bu son jus magique parce que finalement conquérir le monde c'est nul, autant tuer tout le monde c'est plus facile. Il y a pas de question à se poser et ouais non mais alors ça c'était la grenouille pardon. Et effectivement, il y avait le mec castor aussi ultra bizarre bref. Voilà, alors Nightwing, ta rencontre avec Howard.
Alors, c'était super particulier. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'y suis allé à l'aveugle totalement. Je me suis dit, allez, Howard the Duck, ça va être marrant, ça va être 5 minutes, mais peut-être qu'une intégrale, ça va être relou. Et en fait, et ben, premier numéro, ok, le gars est suicidaire. Ok, donc là, je m'attends pas à ça. et ouais, comme tu l'as dit, en fait, c'est un petit plaisir à lire. Après, c'est vrai que enchaîner les numéros comme ça non-stop, c'est peut-être pas le truc le plus agréable parce que, comme tu dis, au départ, chaque numéro a son histoire. Et du coup, ça faisait peut-être beaucoup sur un truc qui peut... Je trouve que c'est un truc qui se picore bien. C'est un titre qui se picore super bien. Et peut-être que c'est le genre satirique qui fait que... Enfin, ça me va, mais que si je l'enchaîne trop d'un coup, c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus. Mais c'est le titre parfait à lire une fois tous les mois. En fait, ça devait être un titre super à lire à l'époque où il est paru, parce que c'est super intelligent, c'est super drôle, c'est super pertinent. Le personnage, honnêtement, en deux pages, la caractérisation, tu l'as, et moi, franchement, j'ai adhéré tout de suite. Donc, très très belle rencontre. J'arriverais même pas à trouver d'autres défauts parce que, bah, après, il y a des histoires toujours plus pertinentes, enfin, pertinentes, non, plus intéressantes que d'autres. Et moi, par exemple, le quatrième numéro, c'est peut-être celui qui m'a vraiment le plus marqué. Avec ah, il y a le dixième que j'ai bien aimé aussi, la partie où le gars est à moitié en train de rêver, enfin bon,
ah oui,
c'est
oui.
Tout un numéro.
C'est sur même ce genre de numéro, non? Celui-là.
Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Et mais pareil, le numéro avec donc l'artiste incompris ou dépressif, on va dire. Je crois que le numéro commence avec le plafond qui se fait défoncer, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un insomniaque qui ne parvient pas à dormir et qui, du coup... ça, à savoir que est représenté ici, dans ce quatrième numéro, Sleepwalker... c'était pas Sleepwalker, c'était... comment il se faisait appeler
Je remets pas le nom.
En fait, c'est parce que Sleeper Wakes... Mais en fait, le personnage, c'est clairement Steve Gerber, en fait, qui s'est représenté comme l'artiste qui n'arrive pas à dormir parce
Son nom de famille, c'est Same. Même son nom de famille, c'est pour dire le gars est pas très intéressant. Genre, je fais toujours la même chose. J'ai adoré ce numéro.
Ah non, mais il avait un nom depuis... Ah oui, c'était le Winkyman, pardon.
Oui, voilà.
Le Winkyman. Mais tu te dis que le gars, le scénariste de Howard the Duck, a créé un double de lui-même qui s'appelle Winkyman. Et c'est un gars qui vole avec une sorte de bougie allumée pour... Enfin, je sais pas, c'était pour endormir les autres, je sais plus ce qu'il faisait, mais pff, il rend la justice, quoi. Mais c'est le Condimentman de chez Marvel, en fait, ce mec, c'est incroyable.
Et c'était... franchement, c'est... C'est un super titre qui jure un petit peu avec ce qui peut se faire actuellement parce que ça n'existe plus ce genre de titre. Très clairement, ça n'existe plus.
Mais même à l'époque, ça choquait. Ça choquait beaucoup à l'époque aussi.
Bah, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai que c'est en lisant ça que je me suis dit que aujourd'hui, il pouvait y avoir ces titres-là à l'époque et je trouvais que même, enfin, là on est dans les années 70. Quand t'allais dans les années 80, tu pouvais trouver des Frank Miller, tu pouvais trouver des artistes avec des vraies grandes gueules, des vraies choses à dire. Je trouve qu'on perd beaucoup aujourd'hui. En tout cas, chez les Big Two, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Tu peux même aller chercher le meilleur black label que tu veux. On ne va plus, aussi loin et tirer sur les choses comme on peut le faire là dans Howard the Duck ou comme on pouvait le faire à la façon de Frank Miller. Ça n'existe plus, ces titres-là. Et c'était super agréable parce que je trouve que y a un autre truc, c'est que moi, je trouve que ça ne vieillit pas. Je trouve que on est en 2024, c'est paru dans les années fin 70, mi-70,
je crois, ouais.
76, 70. 17, le début du titre, ça vieillit pas du tout. Le seul truc qui va te faire paraître le titre un peu vieux, c'est le dessin et la couleur. Et encore, je trouve qu'avec le personnage de Howard, ça passe super bien. Mais à part ça, le titre ne vieillit pas. Parce que ce qu'il raconte reste pertinent. Peut-être que c'est assez dramatique, mais
oui, c'est ce que je me dis. Ouais.
Ça en dit long sur le monde, mais ouais, c'est juste génial, c'est juste super intelligent, c'est j'allais dire unique parce que je retrouve pas ça autre part, mais ça a dû exister et ça existera, mais je ne trouve rien qui ressemble à Howard the Duck, moi, je sais pas pour vous.
Alors, en dehors des Big Two, dans les Big Two, non, effectivement, c'est vrai que c'était l'un des premiers esprits indépendants qui a réussi, qui a eu la chance de pouvoir germer. C'est surtout ça, c'est d'avoir la chance de pouvoir le faire, en fait. Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui ont voulu mais qui n'ont pas pu, tout simplement parce que la pression éditoriale était vraiment trop forte. Mais lui a eu la chance justement d'être dans un moment un peu de chaos pour pouvoir faire ça. C'est vrai qu'effectivement le côté épisodique ou justement un épisode, une critique, même si bon, elles sont pas toutes forcément des plus percutantes. En fait, on est vraiment sur les premiers. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus il critique aussi même le média en tant que tel. Donc Déjà, bon, il y a une petite critique de Disney qui se passe dans le numéro 5 où il se plaint d'un canard noir qui lui ressemble beaucoup. Rétro.
Non, il se plaint de la Warner là-dessus. Ouais. C'était Daffy.
Ouais, oui. En plus, pardon. Ouais, non, pardon. Mais du coup, le bon après, il reprend aussi des styles. Enfin, là, pour le coup, comment il s'appelle, Agent Cullen, il reprend aussi des styles. Alors là, pour le coup, plus des dessinateurs à la Karl Marx pour son. Et effectivement, je comprends du coup qu'il se fasse engueuler dessus parce qu'il essaie de reprendre des uniques, les espèces d'étoiles autour de la tête quand il se prend des coups. On sait qui est-ce qu'il a lu avant de commencer à dessiner son Howard the Duck, de toutes les séries américaines et italiennes qui datent des années d'avant les années 60, je crois, de mémoire. Alors, Carbach, j'ai plus les dates, je crois que c'est années 60. Mais aussi critique de toute la décennie, c'est-à-dire que c'est une décennie où j'en ai parlé tout à l'heure, mais la décennie des monstres, donc on se fout un peu de la gueule de tous ces monstres-là, on se fout de la gueule un petit peu du Doctor Strange, un peu du Man Thing, de Hellstorm, on se fout aussi de la gueule du coup vis-à-vis du numéro 3. Moi, ce qui m'a fait rire, c'était le truc du kung-fu avec le fait. Alors à la fois, il y a une critique d'ailleurs sociale. Sur les noirs, etc., ce qui se passe, mais aussi le foutage de gueule avec le kung fu, le mec qui va dans un lavomatique pour apprendre à faire du kung fu avec un vieux sage qui était dans un lavomatique, quoi.
Pour combien? Pour genre $6.50, on dit un truc.
Oui, c'est ça, qu'il a trouvé la pub dans à l'arrière d'un vieux comics. Enfin bon, bref.
Et en plus, la pub, je sais pas si vous l'avez lu, mais la pub est déjà super drôle, parce qu'en gros, ça te dit que tu vas apprendre partiellement quelque chose, et de manière vraiment, tu vas tout savoir en rien de temps. C'est ça. Ça me tue. Et même le nom du grand maître est juste trop drôle.
Master Chaz Martial Art Extravaganza. Voilà.
Ah oui. Les arts martiaux extravagants.
Et du coup, bon voilà, enfin c'est foutage de gueule de son époque, foutage de gueule de société. Et il y a un autre truc aussi, c'est du coup moi ça m'a fait, en fait à la lecture c'était de me dire le nombre de références que j'ai eues sur d'autres séries que j'ai lues par la suite. Alors j'en avais parlé déjà avec Baptiste, mais il y en a une qui me revient le plus en tête, c'est Rebus, parce que c'est en plus le premier épisode, c'est exactement le premier tome de Cerebus. Cerebus, c'est un tome de Dafsim, un titre de Dafsim. Alors, je sais plus, je crois que Cerebus, ça devait être dans les fin 80, je pense. Ça a dû commencer. Et c'est grosso modo, on va suivre, un espèce de mascotte un peu facochère, qui se balade avec un casque de viking sur la tête, du moins dans les premiers tomes, et qui a pour... qui est aussi un gros râleur, qui critique la société, et qui, dans son premier tome, va faire une critique de tout ce qui est de fantasy, donc ça va y aller, ça va être entre le Conan, le Elric, le Red Sonja, et j'en passe, et par la suite, ça va être plus une critique qui va être là, beaucoup plus politique, et de société, et en fait, tu sens que le mec a bouffé du Howard the Duck, parce que si vous aimez, je veux dire, c'est que si après avoir lu Howard the Duck, vous avez aimé Howard the Duck, lisez Cerebus au moins à partir du deuxième tome jusqu'à, on va dire, quatrième tome, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas rentrer dans le détail, mais Dafsim commence à péter un peu un câble. Il fait toujours des bonnes choses, mais il pète un câble quand il y a notamment une espèce de blague avec trois de ses tomes qui est une blague un peu misogyne, on va dire. Je vais pas rentrer dans le détail. Et après, il y a aussi un autre truc d'ailleurs que j'ai lu plus récemment qui m'a sauté aussi aux yeux. C'est le genre, j'ai envie de donner un genre, c'est le genre la mascotte et la bonasse. Parce que grosso modo, Howard the Duck, c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a la mascotte qui fait des critiques, etc. Et qui est toujours suivie par une bonasse. Une très bonne femme qui est plus là en tant que faire valoir, même si elle a ramené un peu la morale aussi au personnage. Mais qui est vraiment mis en avant sur les dessins pour ses formes. Je veux pas me le cacher, c'est à peu près ça. D'ailleurs, j'ai remarqué plusieurs fois que je m'arrêtais, je me disais, là, il a dessiné Mary Jane, c'est pas possible.
Alors là-dessus, j'ai regardé, mais je trouve pas tellement. En fait, c'est vrai que oui, ça ressemble un peu à la, je vais pas dire la bimbo, mais le modèle de l'époque de la belle femme qui accompagne le personnage. Et je trouve que c'est une bonne idée de Gerber parce que ça te montre que ce modèle du personnage féminin qui est joli et qui est vraiment un peu en mode faire valoir, etc. Elle est capable de suivre le héros qui est un canard qui parle. Donc se montrer un peu l'idiotie du concept. Et d'ailleurs, Gerber fait parfois intervenir à plusieurs reprises Spider-Man et Mary Jane. Donc justement, quand tu les vois face à face, tu vois que c'est pas un clin d'œil à Mary Jane spécialement, mais vraiment au concept du personnage féminin.
Mais c'était, époque où la beauté féminine, c'était des rousses, vous savez, ces personnages qui n'existent plus actuellement dans notre société. non, parce que du coup, tu vois plus trop de roues. En fait, dès que tu crées des nouveaux personnages, tu n'as plus de roues. En fait, j'ai l'impression que ça va, c'est des têtes.
Ouais, voilà. Non, mais on a toujours Barbara Gordon et Mary Jane. Et tu vois, c'est les roues qui.
Et juste pour finir, parce que du coup, le Bonas, c'est la mascotte. Il y avait aussi un autre titre qui là est européen. Alors, je sais pas si, je crois, si il est français, c'est une BD qui s'appelle Juan Alberto et le maître de l'univers, où on va suivre une mascotte qui ressemble à un canard, qui sort avec une rousse et qui est le créateur de l'univers dans lequel il est, et on va suivre ses pérégrinations à travers un univers où il aura créé, je crois, 5 races d'aliens ou un truc, quelque chose comme ça, et faire une critique aussi de société, mais dans un côté beaucoup plus philosophique que vraiment critique à fond. Et en fait, c'est un truc, je me rends compte, je pourrais encore continuer, mais il y a encore d'autres titres qui ont repris ce côté-là. Alors, pas forcément juste avec des mascottes, mais ce truc-là, je pense qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui, c'est là où on se rend compte qu'en fait, Howard the Duck a vraiment donné du fuel, enfin, de la matière du carburant pour faire réfléchir des auteurs qui s'en auraient par la suite et du coup, justement, que ça a été vraiment une grosse influence pour d'autres.
J'ai un truc qui m'a choqué, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Howard the Duck a été également censuré par Marvel, et de toute façon, il fallait que ça soit censuré vu ce que ça représentait, quoi. C'est que Howard the Duck va avoir un énorme succès au point où Gerber va avoir des idées pour plus que ce comics. Donc il va également y avoir des comics qui sont pas tout à fait terminés, etc., qui vont devenir des compléments de journaux, donc en mode newspaper strip. Il y aura également des modèles. Alors attendez, il faut que je vérifie un truc, c'est sur les derniers numéros. En fait, il y a des numéros qui sont assez difficiles à trouver. Je sais pas si Panini va les publier dans les intégrales, mais ce serait très cool, parce que c'est ce qui nous manque dans l'omnibus en VO. Ça va être les Howard the Duck Magazine et plusieurs Marvel Team-Up. Et également des Sensational She-Hulk, parce que John Byrne va reprendre le personnage pour quelques apparitions dans son run. Et bien en fait, dans ces éléments-là, on va avoir des aventures en noir et blanc de Howard the Duck, et Steve Gerber avait prévu une scène explicitement de sexe entre Howard et sa copine. chose qui va être évidemment retiré, sauf que les crayonnés sont, je pense, trouvables, et pour les avoir vus, honnêtement, je pense que oui, fallait les censurer. Mais alors comment ? Alors il y avait également une scène à moitié nue où on voyait toute la poitrine de sa copine dans le lit. Je me suis dit, à quel moment ils ont pu se dire que ça allait passer ? Et en fait, en revoyant un peu le Comics Code Authority, c'est vrai que en 71 ou 72, je n'ai plus la date exacte, mais c'est début années 70, ils avaient revu le Comics Code Authority pour l'alléger, et cet allègement avait été quand même assez fort, parce que ça a permis de faire passer pas mal de choses, ne serait-ce que ce que vous voyez dans Howard the Duck, côté satire, côté terme, et côté violence, parce que à un moment donné, on a une vache avec des ailes de vampire, et dans cet épisode-là, la vache, il y a clairement du sang et des cadavres qui sont montrés. Donc, tu te dis, c'est un peu beaucoup là quand même la violence pour un titre qui se veut humoristique, même si c'est satirique et très acerbe, quoi. Donc, je me suis posé pas mal de questions, j'ai vérifié et j'ai trouvé cette information-là et je me dis, mais c'est dingue. En fait, Gerber a vraiment eu un alignement des étoiles entre le Comic Code Authority qui s'allège, le fait qu'il n'ait plus d'éditeur pour le freiner, pour pouvoir faire Howard the Duck. Et je trouve ça...
C'est un enfant qui se déchaîne, hein, dès que tu lui enlèves les règles, c'est bon, c'est limite, ouais. Il a dit, lui, moi aussi je serais sans pantalon comme mon personnage.
Mais du coup, j'ai vérifié les crédits, et donc déjà pour Ginkolan, pour Howard the Duck, on a quand même Klaus Johnson à l'ancrage. Je me rappelle que ça m'avait un peu marqué de me dire, waouh, Klaus Johnson, il était déjà sur Ginkolan, sur du Howard the Duck, incroyable. Et c'est vrai que c'était très 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 propre. Et à côté de ça, Gerber va rester sur du... On va dire, il va coécrire les épisodes sur la fin de la série, et sur la fin, il va vraiment être, ne plus être qu'éditeur. Mais je pense qu'il va être crédité comme éditeur, mais il va plus vraiment avoir de grands rapports avec la série. Parce que justement, il sera en litige avec les droits, comme j'avais dit tout à l'heure, parce qu'il avait signé un contrat d'exclusivité chez Marvel, afin d'avoir non pas les droits de Howard, mais un droit de refus que les comics Howard puissent être publiés. En gros, d'avoir un refus que le projet soit validé chez Marvel. Donc, ce qui fait qu'il avait quand même un certain pouvoir vis-à-vis du personnage. Donc il essayait quand même par la suite avec légalement de récupérer le personnage, chose qui n'arrivera cependant pas. Voilà, bon, en tout cas je pense que on a fait le tour de Howard the Duck, il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'espère que mes explications auront été déjà assez claires et suffisamment précises, parce que il y a des choses quand même, je préfère mettre des gros guillemets, ne serait-ce que sur l'identité de l'éditeur qu'il avait sur Mansing. Là j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas retrouvé le nom de l'éditeur, mais c'est pas grave, ça reste des anecdotes qui pourtant existent. Celle de la carcasse de canard, c'est certainement mon anecdote préférée de l'histoire de chez Marvel. Se dire que c'est grâce à ce mec, ce canadien assez taré, pour se dire bon, jette pas la carcasse là, je vais en avoir besoin, je dois l'envoyer à Marvel. Parce qu'il est tombé amoureux de ce canard parlant qui est apparu deux fois dans un comics. Je veux dire, aujourd'hui qui ferait ça? C'est incroyable, c'est génial. Et c'est cette dévotion de passionné que je trouve géniale dans l'histoire de Gerber, parce que il avait fait un peu le même coup sur ses Defenders, qui sont en train d'être édités là en VO, donc je les ai pas lus, mais je sais qu'il a déjà fait plusieurs coups comme ça sur ses Defenders, où il y avait ce grain de folie qui se présentait de plus en plus. Et il faut savoir qu'à Gerber, on doit également le retour des Gardiens de la Galaxie dans les années 70 également. Donc c'est sur toutes ces séries-là qu'il a eu un impact assez fort, et pourtant pas mal oublié.
Je pense que si j'envoie au scénariste et aussi à l'éditeur Image de Nowhere Man une patate douce éventrée, est-ce que ça leur fera faire la suite de Nowhere Man?
Ça les fera bien rire, et ça fera encore une nouvelle anecdote que j'apprendrai avec plaisir. Du coup, ouais, c'était vraiment une très très bonne découverte. J'en doutais pas vraiment, mais et en plus, faut se dire qu'on a failli passer à côté, parce que les intégrales, on a tendance un peu à les skip, parce que c'est pas généralement du contenu qui n'intéresse. J'ai envie de dire que moi en général, parce que vu que je fais tous les épiques, moi je bouffe tout ça avec plaisir. Mais là, Howard, bah il y a pas eu de épique, et du coup, là, je suis content que Panini remette en avant ce personnage dans une édition pour une fois en librairie. Donc c'est vraiment un truc que je trouve à ne pas rater, parce que pour moi, s'il y a une liste à faire, sur que j'ai commencé d'ailleurs, de comics à lire dans sa vie, il y a Howard the Duck, et ça c'est pour moi un grand classique de chez Marvel. Je sais pas si vous êtes absolument d'accord.
Oui, c'est
vu les retours,
C'est vraiment un titre qui est épatant, du moins pour l'époque. Et je suis bien heureux qu'on puisse l'avoir enfin en France, parce que je crois que ça n'a jamais été en plus édité en France.
Jamais intégralement, mais il y a eu quelques épisodes, je crois.
Ouais, voilà. Donc, c'est le moment de foncer, quoi. Enfin, c'est l'une des bizarreries qu'on va pas avoir très souvent, quoi. C'est comme d'ailleurs aussi le fait que ça a été enfin annoncé, Baptiste, parce que du coup, on en avait parlé précédemment, c'est Rome.
Ouais. Oui, annoncé en omnibus, ouais, voilà. Par Panini, oui, c'est vrai, j'avais vu.
Manque ça, plus que le Marvel versus DC. Ça aussi. ça, après ça, c'est vraiment que de la gaminerie, hein. Je précise, hein. Je suis pas sûr que ce soit, c'est quelque chose qui est juste pour les gamins qui veulent voir des jouets se battre entre eux, mais en vrai,
j'ai tout lu là, justement, pour l'occasion.
Voilà, on vous recommande plus Howard the Duck, hein.
Et du coup, Nightwing?
Et pour ceux qui aiment les comics, qui ont des choses à dire, bah, foncez tête baissée parce que c'est ce qu'il vous faut et c'est ce que vous ne trouverez pas à l'heure actuelle dans les publications de Marvel ou même de DC ou même de ailleurs en ce moment. Je vois pas de titre de ce genre là.
C'est con parce que il y avait un truc là que j'étais en train de lire où j'étais persuadé que ça allait être une grosse claque, c'était l'Avengers Twilight. Et j'arrête pas de le dire, mais ce numéro 1, il était impressionnant. Pour que Zdarsky me déçoive avec ce numéro 2, quelle horreur, quelle infamie, quoi. Pour une fois qu'on a une vraie critique de société, quoi.
Ah oui.
Quand tu le lis, t'as vraiment l'impression que c'est une critique de l'Amérique selon Trump et trucs comme ça, mais en fait, non. Ouais. Non.
Et oui, une certaine chose, d'ailleurs, c'est à propos de la couverture de l'intégrale. Vous allez voir que c'est une version recolorisée, pas très belle, et où Howard a un pantalon. Et alors, faut pas jeter la pierre à Panini, je vous le dis tout de suite. C'est parce qu'en fait, ils ont juste repris une couverture d'une réédition des Complete Collection de chez Marvel en VO. Donc, c'est un travail de Marvel qui, à mon avis, a voulu éviter les problèmes avec Disney.
Mais non, il n'y a plus de problème, pourquoi il y aura un problème.
Ouais, non, du coup, il n'y a plus de problème, en fait. Pourquoi ils ont fait
ils
ça?
Ils pourraient même mettre un macaron avec les voilà, par le plagiat de...
Approuvé par Disney. Par le plagiat, c'est... Donc ouais, non, voilà, ils ont fait ça, finalement, je me pose des questions, et ils ont même terminé des dessins de... Enfin, ils ont prolongé les dessins de Lincoln. Avec des choses un peu dégueulasses, bref. La couverture ne fait vraiment pas envie, je le sais, mais le contenu, vraiment, il est délirant. Mais
sachant qu'en plus, juste pour revenir dessus, c'est qu'on va avoir un oncle Picsou qui va sortir chez Marvel, qui me désespère, parce que, bon, c'est pas parce qu'il est Jason Aaron, c'est parce que ça va parler de multiverse de l'oncle Picsou, et là, je me suis dit, oula, Marvel fait du Marvel. Non. Ouais. Je veux pas.
Ils vont l'épuiser jusqu'à.
Voilà. Ah, le multiverse. Multiverse partout, everywhere.
Oh là là. Ouais, non.
Ouais. Mais en attendant, Howard, ça gérait les univers, enfin, différents univers avec un truc complètement fou, et ça marchait bien.
Ouais.
Donc voilà, Howard the Duck en intégrale années 73 à 77, une intégrale à 36€, mais avec 368 pages. Je crois que c'est une des plus grosses intégrales vendues par.
Alors
par
à se
Panini.
Battre avec le titre que t'avais présenté là. Ah j'ai oublié Starkiller. Non c'est pas ça. C'est je confonds.
Oui.
Kill Raven. Qui lui doit faire presque 450 pages, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est vrai qu'il était bien mastoc aussi celui-là. Mais oui, effectivement. Ouais, on prend les intégrales les plus épaisses pour vous en parler, histoire de vous dire vraiment si ça vaut le coup. Donc là, clairement, oui. Voilà, j'ai tout dit. Oui, ça sort le 27 mars 2024, évidemment, chez Panini Comics. Voilà, bon, on espère que ça vous a plu. Là, pour le coup, je suis content parce que ce podcast a plein d'anecdotes, plein de... En plus, un titre génial, un truc qu'on pourrait vraiment glisser à avoir dans sa bibliothèque de comics absolument. Donc vraiment là c'est plus qu'une recommandation, c'est vraiment une demande de que vous puissiez acheter cet album parce que je vois pas comment vous pourriez le regretter en fait, y a pas moyen. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation comics. Allez, salut tout le monde.
Bonne semaine.